Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça va bien depuis la dernière fois?
Ouais, ça va.
Est-ce que tu peux nous dire ta plus grosse fiesta sur le circuit?
Ouf. Alors, ça, c'est chaque fois, en fait, qu'on gagne ou qu'on perde. Au fait, on a toujours dit avec l'équipe, on allait tout le temps, en fait, célébrer le fait qu'on soit entre nous, peu importe où, à travers le globe. Donc, on a fait une anecdote assez incroyable en 2015 à Zielona Góra. Quand on a battu la Pologne, donc Radwanska était deuxième mondial, moi j'étais 30e mondial. Puis j'arrive sur ce week-end et c'est là que Martina joue d'ailleurs en simple. Ce week-end-là, elle a joué en simple à nouveau. Moi, au fait, c'est très rare d'avoir des week-ends comme ça où, au fait, t'as le flow, tu sens tout. Moi, j'ai battu le premier jour samedi, moi j'étais numéro 1. Je jouais contre numéro 2, qui était Ursula Radwanska. Je l'ai battue 6-1-6-2. Ouais. Le lendemain, j'ai battu Agnieszka Radwanska, qui était deuxième mondiale, 6-1-6-1. Ce week-end-là, j'avais le flow. On a décidé de mettre Martina ensemble. C'était un peu un joker, parce qu'elle réintégrait l'équipe. Et puis, on a longuement discuté, genre, est-ce qu'il te faut un match avant pour... Enfin, on ne pensait pas qu'elle allait gagner contre Agnieszka Radwanska, mais on pensait que le dimanche... quand elle numéro, enfin elle pourrait gagner éventuellement contre Ursula Radwanska. Et elle menait d'ailleurs 1-7-0 et 4-1 et 5-2. Ça s'est pas fait. Et puis après, elle a refusé de jouer le double parce qu'elle était trop morte, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire des simples, etc. Finalement, moi je vais avec Victoria Golubic sur le double. On perd 1-7-0, après deuxième set on le gagne, puis on mène 5-4, c'est moi qui sers. Et comme je dis, j'avais le flow ce week-end. Et puis, on n'a pas réussi à finir le jeu directement. C'était très très space, parce que normalement on aurait dû finir ce jeu. Enfin, chance, pas chance, concours de circonstances, on l'a pas fini. Puis finalement, on a fini par gagner 9-7. Et c'était hyper chaud, c'était pour revenir dans le groupe mondial. En plus, ne pas avoir Martina qui joue en double, qui était numéro 1 mondiale à ce moment-là, c'était chaud. Mais c'est elle qui n'a pas voulu jouer. Moi, j'étais vachement empruntée, quoi. J'étais un peu là, mais c'était vraiment compliqué. Et puis finalement, on a gagné ce match. Et c'était à Zielona Góra, c'était à 5 heures de voiture de Berlin. Puis quoi qu'il arrive, on avait une escale à Berlin. Alors, ce qu'on a fait, c'est quand on a gagné, on a pris, on a mis tout dans la voiture. Et puis, notre président avait réservé je ne sais quel hôtel à Berlin, 5 étoiles. Et puis, ça s'est avéré que la fête s'est faite dans ma suite. Et puis, il avait déjà commandé, en fait, je ne sais combien de trucs à manger, je ne sais combien de bières, je ne sais combien de champagne. Bon, on est arrivé là-bas, on a terminé vers les 17h et puis on est arrivé là-bas vers les 1h du mat. Et au fait, le lendemain, on a failli tous et toutes rater le vol, mais finalement, on l'a eu. Mais là, c'était une grosse, grosse fiesta, quoi. C'était assez dingue. Aussi, que quand on a battu la France en Fed Cup en 2017, quand Kiki Mladenovic, évidemment, jouait très, très bien, et puis c'était la tête un peu à abattre. Et puis moi, j'avais mes stats contre Alizé Cornet n'étaient pas forcément favorables. Ce week-end-là, à Genève, à Palexpo, puis il y avait 15 000 personnes. Enfin, j'ai réussi à abattre les deux. Et puis en plus de ça, j'ai encore mis un autre point, même si on avait encore gagné. Je suis retournée sur le court avec Martina pour faire honneur à notre médaille qu'on avait eue en 2016. Je suis retournée sur le terrain et puis on a marqué un point de plus aussi. C'était assez cool.
Solide. Et du coup, tu as fait la fête avec Martina? C'est une fêtarde un peu?
Ouais, c'est une fêtarde, Martina. Ouais, on a beaucoup de similitudes, elle et moi.
Est-ce que tu fais de la prépa mentale avec un coach dédié?
Non, j'en fais pas.
Okay. Selon toi, quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné?
Il faut jouer en fait avec soi-même ses propres propriétés, j'ai envie de dire. S'il y a un style de jeu qui fonctionne, c'est pas pour autant que ce sera le tien. Donc en quelque sorte, il faut t'adapter par rapport à tes propres atouts. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais voulu être une nana qui mettait je ne sais combien d'ace, qui allait faire des coups gagnants à tort et à travers. Non, j'ai compris que mon atout, c'était la science du jeu, c'était la malice, c'était à un moment de ma carrière, c'était le physique aussi. Donc je tenais beaucoup plus longtemps que les autres joueuses. Il faut jouer en fait avec tes atouts. Personne n'a le même gabarit, personne n'a le même physique, personne n'a forcément le même mental. Donc il faut juste savoir quels sont tes points forts. Et du moment que ton coach sait ça aussi, il arriverait aussi à te former par rapport à ça.
Si tu avais une jeune joueuse devant toi de 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de ton expérience si elle rêve de devenir championne de tennis?
Qu'il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience et il y a la porte qui est ouverte pour tout le monde. Il y a toujours une brèche. Il faut la prendre quand c'est le moment de la prendre. Si tu ne la prends pas, peut-être éventuellement, elle va se réouvrir. Mais en quelque sorte, il ne faut pas être le plus fort, le plus tôt, le meilleur. Quoi que ce soit, c'est une question de patience. Une carrière est longue, ton jeu va changer, ton mental va changer aussi. La personnalité de chacun change. Et une carrière peut durer, si on prend celle de Federer, elle n'a pas de limite. Mais en fait, durant toutes les carrières, il y a toujours, tu ne peux pas rester la même personne, tu ne peux pas rester le même joueur toute ta carrière. Il faut que tu évolues avec ton monde aussi. C'est une question d'évolution. Mais les êtres humains aussi, dans leur propre job, ils font que d'évoluer finalement. Donc, pas tout le monde aura le même job pendant 20 ans, pendant 50 ans ou moins ou quoi que ce soit. Donc, la carrière tennistique, elle est pareille. Donc, c'est un monde qui bouge, c'est un environnement qui bouge. Tout bouge. Et puis d'ailleurs, on le voit encore plus aujourd'hui avec du coup les quarantaines qu'on a. Chacun de notre pays, c'est qu'on ne peut pas être sûr de toutes les choses. Donc, certes, il y a des choses qui sont à peu près sûres, mais il y en a d'autres qui bougent tout le temps. Le monde est en mouvement. Il ne faut pas marteler son cerveau à être une genre de personne. Il faut être assez flexible.
Et est-ce que tu as vécu une anecdote ou deux sympas avec ton compatriote martien qui s'appelle Roger Federer, ainsi qu'avec Stan aussi, ça peut être sympa à raconter?
Alors, j'en ai pas beaucoup. Avec Rod, il y a une fois, c'est en 2013, j'avais fait quart de finale à Roland, ou peut-être quatrième tour chez Junior, et puis j'avais reçu après à Wimbledon un ticket pour aller voir son match. C'est Mirka qui me l'a donné en main. Incroyable. Et puis j'ai été voir son match et puis c'était grandiose quoi. Enfin, il avait gagné. Après, j'ai une autre anecdote, c'était du coup l'année d'après, parce que je sais que quand j'ai fait demi à Roland, moi j'ai dû passer chez Junior, j'ai dû passer par les qualifs parce que Suisse Nice avait oublié de m'inscrire. Okay. Pourtant, j'étais 250e mondial. Et puis j'étais 15e mondial chez Junior, mais ils avaient oublié de m'inscrire. Ouais. Apparemment, c'est Rog qui avait un peu fait le push pour que je puisse avoir une wildcard sur les qualifs. Donc j'ai passé les qualifs, puis ils ont dû attendre jusqu'au dernier moment pour tirer le tableau, étant donné que j'étais déjà, en fin de compte, j'étais 3e tête de série du tableau. Et puis, moi je jouais encore chez. Enfin, j'étais encore en lice en tableau. Et lui, il jouait Guga sur Philippe Chatrier. Puis il a perdu 6-4, 6-4, 6-4. Donc je sais qu'il avait un peu fait le push parce que Suisse Tennis avait fait une boulette. Ça arrive. Hein.
Stan, vous êtes assez proche aussi?
Pas tant que ça. Pas tant que ça, je dois dire. Je pense qu'on vient un peu de la même région. Je pense que par notre passé, on a eu quelques tensions entre. Son ex-coach qui était devenu le mien, mon coach, Erfan. Il y a eu quelques tensions, on n'était pas très proches. Puis après, quand j'ai commencé avec Dim, Après, Stan a eu la gentillesse de me consacrer une ou deux heures à Indian Wells, c'était en 2016, et puis on avait longuement parlé. Pour moi, enfin, il m'a énormément aidé, en tout cas par rapport à ma situation, par rapport à ma carrière, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il avait déjà gagné deux grands chelems à ce moment-là. En fait, il y a un peu une espèce de barrière, mais c'est pas pour autant en fait, qu'on n'a pas d'appréciation l'un pour l'autre, en tout cas de mon côté. Ce sera toujours le gars que je vais soutenir pour tout, parce qu'en fait, j'ai un respect. Inconditionnel pour ce qu'il a fait dans sa carrière tennistique. Autrement, en fait, on n'est pas plus proche que ça, en fait. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'un jour, on sera autour d'une bière et puis on en discutera. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas plus proche que ça.
En haut d'une montagne, tous les trois avec Roger. Alors, elle est pas belle
Il y a
la
aussi
vue.
des plaines en Suisse, il n'y a pas que des montagnes.
Ah, d'accord. Le cours de tennis, est-ce que tu as souvenir d'un cours d'entraînement assez improbable sur lequel tu es joué, au milieu de la jungle ou entre deux plaines, par exemple?
Bah, par des photos, je sais que j'ai joué à Sainte-Lucie. Au fait, le coach qui m'avait vu à mes 3 ans m'a réécrit quand j'étais en demi de Roland. Il me fait ah, mais c'est absolument incroyable. Moi, j'avais dit quand je t'ai vu jouer quand tu avais 3 ans que c'était incroyable ce que tu faisais. Et puis, je lui avais répondu. Après, on avait un peu chatté simplement. Mais c'était le prof de sport du Club Med là-bas. Ça, c'est vrai que c'est assez improbable. Mon père, ben, à peu près vers mes 3-4 ans, ben, il jouait très souvent avec moi. On imagine une toute petite fille qui tape hyper fort la balle, qui a un timing assez bon. Ben, du coup, ça interpelle plusieurs personnes. Donc, ça, c'était assez improbable. Sinon, j'ai un autre très très bon souvenir de Erfan, de mon coach actuel, qui était mon coach aussi à l'époque, de mes 15 ans jusqu'à mes 23 ans. C'était en 2009, on était dans un tournoi ITF du Bronx et il pleuvait. Il a plu 5 jours et il a fini UCLA. Enfin, il a joué pour l'équipe de UCLA. Il avait déjà fait à l'époque sparring de Sharapova, de Shuai Peng, de Serena Williams, parce que évidemment, tous les joueurs de UCLA. Bah, il joue avec les grands stars avant Indian Wells et ainsi de suite. Et puis on était au Bronx avec lui en 2009. Puis il m'a dit, écoute, viens, on va jouer, il pleut, viens. Puis j'étais, ah, non mais attends, il pleut, il pleut. Et puis il me fait, viens, on prend les balles, prends tes chaussures. Je dis, mes chaussures sont mouillées. Je suis, c'est bon, tu les sèches. Il me dit, c'est bon, tu les sèches. Tu te débrouilles, c'est bon. T'es une grande fille. Puis au fait, on a joué avec les balles dans toute enfin, sur toute l'infrastructure, complètement mouillée. Mais c'est juste, ok, ça fait 4 jours que tu n'as pas tapé la balle. En 2009, j'avais 20 ans, donc il fallait que je tape plus la balle que maintenant. Parce que là, j'ai encore des heures et des heures de tennis derrière moi. Mais évidemment, en 2009, à 20 ans, j'en avais moins. Puis on a joué pendant 1 heure sous la pluie, et puis les terrains noyés. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai toujours eu ce côté, mais il n'y a pas de mauvaise balle, il n'y a pas de mauvaise raquette, il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a que des mauvais joueurs. Parce que j'ai tapé avec lui et ça m'a fait plaisir. Enfin, sur le moment, il faut dire ce qu'il est. J'étais pas yay, génial. Mais avec le recul, je me dis, oh, mais il a bien fait de faire ça. C'est une éducation en quelque sorte.
Pendant ta carrière, enfin jusqu'à ce jour, en tout cas, tu as gagné 6 665 012 $. Quel regard tu portes sur ce montant?
Quel regard! J'ai eu la chance aussi assez rapidement de pouvoir investir dans des biens immobiliers. J'ai eu la chance d'avoir fait quelques bons choix. Après, éventuellement, je peux dire, ok, ce montant n'est pas vraiment représentatif par rapport à ce que j'ai pu m'investir. Mais en même temps, quand t'aimes ce que tu fais, t'es pas en train de te dire, qu'est-ce que je vais me payer de plus, pourquoi est-ce que je fais ce métier, est-ce que c'est pour le tennis, enfin, est-ce que c'est pour l'argent ou autre? Pour moi, c'est plutôt, j'adorais faire ce que je faisais. Et puis, j'ai la chance d'avoir un tout petit patrimoine. Mais c'est un tout petit. Je suis fière aussi de moi d'avoir pris en fait, des bonnes décisions à un certain moment d'investir dans certaines choses. Mais après, ce montant, les gens ont tendance à dire, c'est incroyable, elle a gagné autant. Mais en même temps, les gens ne se rendent pas compte ce qu'on dépense aussi. On dépense énormément en tant que joueur de tennis. Et puis finalement, la plus-value, elle n'est pas gigantesque. Après, la plus-value dépendra sur le tard par rapport aux investissements que tu as faits. Mmh. J'ai essayé de faire certains investissements justes. Après, pour moi, ils étaient justes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont encore bons. Puis, j'ai quand même une possibilité, à travers ce que j'ai réalisé dans le monde sportif, de pouvoir aussi me recycler. À la fin de ma carrière, j'ai l'impression que j'ai plein de portes qui pourront être ouvertes aussi. Enfin, éventuellement, les personnes pourront savoir que j'ai ce qu'on appelle de soft skill. On n'a pas un diplôme de joueur de tennis. On n'a pas un diplôme comme l'Uni ou quoi que ce soit. Mais on sait gérer des choses avec une haute pression que certaines autres personnes ne géreront jamais dans leur vie. Donc, ce montant, il paraît gigantesque. Finalement, il n'est pas si grand que ça si on le divise sur les 17 années que j'ai été pro. J'ai essayé, en tout cas, d'être la meilleure dans mon métier pour que, éventuellement, aussi pour plus tard, dans mon sport, on puisse me reconnaître et puis que je puisse avoir éventuellement des opportunités qui s'ouvrent à moi, qui sont pour mon futur.
Tu te souviens de ton premier gros chèque et ce que tu as ressenti?
Oui, je crois que je t'en avais parlé juste la dernière fois. C'était au tournoi de Zurich, quand j'avais battu une 30e mondiale au premier tour des qualifs. Puis après, j'ai eu une wildcard pour le double aussi. Et puis, au fait, après ce tournoi, j'avais reçu... Non, c'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Je suis désolée, je dis n'importe quoi. C'était l'année d'après, à Zurich, au premier tour. Non, je me qualifie. Et puis après, je bats Miskina au premier tour. Après, je bats Skiavon au deuxième tour. Et puis après, j'arrive en quart de finale contre Sharapova. Je perds 6-3, 6-4 contre Sharapova. Moi, j'ai 16 ans. Elle venait de gagner l'US Open. À la maison, j'ai un chèque de 50 000 francs suisses. Enfin, à peu près 50 000 dollars aussi. Ouais. Moi, je voulais m'acheter, au fait, un porte-monnaie qui coûtait moins de 200 francs. Et ma mère me l'a interdit et je l'ai quand même acheté. Mais j'ai quand même dû mettre, moi, de mes mains, j'ai dû prendre le chèque et l'amener à la banque qui était... Ma mère m'a dit, mais si tu perds ça, mais c'est une catastrophe et tout. Et j'ai été à la banque j'ai pris le chèque et je l'ai mis moi-même. Je suis descendue en bus de chez moi, de chez ma mère. Et parce que c'est moi qui devais l'encaisser parce que mon nom était dessus. Et pourtant, à 18 ans, tu ne peux pas avoir tous les chèques ouverts ou quoi que ce soit. Je l'ai quand même encaissé. Moi, je l'ai mis à la banque. Puis j'avais envie d'acheter un porte-monnaie pour 200 francs, 200 dollars, 200 francs suisses, quoi. Pour 190 euros au jour d'aujourd'hui, parce que l'euro est tellement bas, désolé. Et du coup, ma mère ne voulait pas. Elle disait non, il ne faut pas dépenser de l'argent pour ça. Et puis c'est aussi ça, comme je disais sur la dernière fois qu'on en a parlé, j'ai toujours eu ce côté genre, il ne faut surtout pas acheter des choses où on n'a pas besoin. Mais une fois, je peux m'acheter un porte-monnaie. J'ai pas envie de me la péter ou quoi que ce soit, je voulais juste acheter un porte-monnaie, quoi. Et c'était un gros, gros dilemme. Finalement, je voulais quand même faire. C'est passé. Mais ça m'avait fait peur de traverser même la moitié de la ville, 700 mètres à faire, avec un chèque de 50 000 euros, quoi. Enfin, 50 000 francs suisses. Donc, à l'époque, c'était 40 000 euros. C'était quelque chose, quoi.
Est-ce que tu as une intuition sur l'évolution du format de jeu?
Alors, je pense que ça va se raccourcir, mais ça vient des téléspectateurs, surtout. C'est aussi de notre génération, la génération d'après. C'est que les choses, il faut qu'elles soient vues vite. Comment dire, le stress soit sur un petit cours de petit laps de temps. Pourquoi est-ce que tout le monde vient voir les super tie-breaks? Et ainsi de suite, c'est parce que tout le monde veut être là quand il y a le money time. Et par la force des choses, malheureusement, je pense que le tennis va changer de format. Moi, je suis la première à dire qu'il ne faudrait pas que ça change. Après, je veux dire, qui suis-je pour dire qu'il ne faudrait pas que ça change? La génération d'après sera faite de propriétés différentes que la nôtre. Donc, le changement est bien aussi. Donc, il faut juste l'accepter. Pour moi, c'est dur à l'accepter. Parce que j'ai que vécu avec ça. En même temps, le monde est comme ça. Ça évolue constamment. On n'est jamais figé. Le monde évolue tout le temps.
Quand tu sors dans la rue en Suisse, les gens te reconnaissent beaucoup ?
Oui. beaucoup.
Ça te fait plaisir, ça te saoule, comment tu vis la notoriété?
Alors, au tout début, quand je commençais à avoir une assez grande notoriété, notamment en 2015, là c'est très dur pour moi, parce que j'ai une personne assez discrète. Puis là maintenant, je le prends différemment, j'ai appris à le prendre différemment aussi. J'ai envie de dire, ça me fait de plus en plus plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu un malaise, parce que les personnes ont l'impression de te connaître, et finalement elles ne te connaissent pas, et puis elles se permettent de te dire certaines choses. Puis toi, tu es un peu là, oui, ok, super. Et puis moi, je dis toujours, mais j'ai pas rétabli la paix dans le monde, j'ai pas sauvé de vie, je suis pas une chirurgienne, j'ai juste fait éventuellement rêver des personnes, c'est tout. C'est adorable finalement, les personnes qui me reconnaissent. Puis là, c'est un peu marrant, avec le confinement, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, ah, est-ce qu'on peut prendre un selfie? Puis je les ai regardés, je fais, ah, c'est pas autorisé. Ah non, je suis désolée. Et c'était assez chou. En fait, finalement, et puis là, ils ont compris, en fait, juste pouvoir échanger en fait, quelques paroles, ça, suivant comment, ça suffisait. Il ne fallait pas forcément l'immortaliser. On a échangé des mots, et puis, ah, on peut faire un selfie. Je crois, ouais, on n'a pas le droit. Et puis là, ils ont compris, en fait, que finalement, l'échange humain, ce n'est pas de pouvoir forcément prendre un selfie et pouvoir se pavaner avec ce selfie. C'est plutôt éventuellement l'échange, tout simplement le petit moment d'échange.
Est-ce que tu te souviens la toute première dotation de vêtements que tu as reçue avec ton tout premier sponsor? Est-ce que tu as ressenti?
Je sais pas, parce que j'avais 12 ans et c'est pas moi qui regardais les contrats, donc je peux pas dire.
La première fois où tu as reçu des jupes, des t-shirts et tout?
Non, je pouvais les commander. Donc je pouvais commander ce que je voulais pour un montant. Mais je sais pas quel était le contrat, vraiment. Je peux pas le dire. Enfin, je peux pas, c'est pas que j'ai pas envie de le dire, je sais pas.
Comment est-ce que tu utilises tes réseaux sociaux aujourd'hui et combien de temps tu passes par jour?
Alors là, de moins en moins. C'est pas que j'ai pas envie d'être au service de ça ou quoi que ce soit, mais je les ai toujours utilisés majoritairement pour moi. Puis après, ça a été quand j'ai commencé à mieux jouer, c'était aussi à travers les sponsors. Mais tu sais très bien que tu peux pas tout mettre.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Parce que tu as quand même une partie de vie privée, donc tu peux pas tout mettre. Et puis surtout, en ce temps de confinement, ça m'est passé plein de fois à l'esprit de dire « Ah, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. » Mais moi, pour moi, c'était plutôt le soutien de... Enfin, comme on nous a demandé ensuite de rester à la maison, de respecter les règles, au fait, finalement. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup de restaurants et d'autres sont dans une situation précaire. Je ne peux pas aider tout le monde. Mon aide, c'est... Moi, j'estime, c'est de rester juste à la maison et de respecter les règles, comme tout le monde devrait le faire. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, parce que quoi qu'il arrive aussi, tu seras tellement critiqué. Cette pensée m'est venue il y a à peu près 2 mois et demi. Donc ma maman a 70 ans, elle est médecin dentiste, et elle m'a demandé d'aller chercher pour elle certaines choses. Puis en tant que médecin dentiste, elle a des masques. Puis elle m'a donné un masque. Enfin, elle m'en avait donné 5, pour dire la vérité. Elle m'en a donné un, j'ai fait les courses pour elle, j'ai déposé chez elle, etc. Puis j'ai fait une petite story sur Instagram, etc. J'ai été, au tout début du confinement, j'ai été, mais trashée de tous les côtés. Genre, les masques, il faut que ça soit pour les personnes en première ligne, etc., etc. Puis j'avais envie de leur dire, attendez, je veux dire, moi j'essaye de protéger ma maman, j'essaye de faire des choses pour elle. Enfin, voilà, mais j'ai été trashée comme pas possible. Puis après, je me suis dit, mais durant ce confinement, moi, je vais pas tant faire que ça, parce que tu fasses, que tu fasses pas, il y aura toujours des critiques. Et puis, au fond de mon cœur, je l'ai fait pour ma maman et éventuellement pour sensibiliser certaines personnes Mais genre, faites-le pour vos parents, pour des personnes qui ont plus de 65 ans, pour qu'ils restent à la maison. Puis c'est le message que je voulais passer. Et je me suis fait tracher comme pas possible parce que j'avais un masque que ma mère a eu parce qu'elle est médecin dentiste. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les gens, ils auront toujours quelque chose à redire. Toujours. Ouais. Et ça, pour moi, ça m'a fait tellement de mal, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais... Réseaux sociaux, maintenant, ça va être un peu low profile parce que j'ai pas l'envie, au fait, de devoir être, en fait, l'éponge critique non-stop quand tu veux faire, en fait, un truc bien pour tout le monde et, au fait, tu te fais critiquer à foison tout le temps. Donc, non, j'ai décidé, non, j'ai pas envie. Je suis assez... âgé pour je m'en fiche combien de personnes sont mes followers et s'ils me follow c'est pour ce que je leur ai donné aussi les dernières années et puis ils savent comment je suis. S'ils veulent me follower, mais tant mieux pour eux. S'ils veulent pas, s'ils veulent me défollower, mais c'est leur truc. C'est bon, j'ai assez de recul pour ça. J'ai pas besoin d'être bien dans ma peau que j'ai plus ou moins de followers. Je m'en fiche. Les actes que je fais parce que j'estime qu'ils sont bien, j'essaie tout le temps de les peser, mais je refuse au fait qu'on m'insulte, qu'on me dise c'est horrible ce que je fais quand je fais quelque chose enfin pour ma maman, pour les personnes qui sont proches, enfin pour moi dans mon cœur. Donc les réseaux sociaux, ça peut tout le temps à double tranchant parce que là t'as l'impression que t'es aimé parce que t'as je ne sais combien de followers, mais ça pour moi c'est faux. Il y a des personnes, enfin c'est leur droit hein, d'être comment dire, c'est leur fuel, et pour moi, c'est pas le mien.
Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. À ce jour, quel est ton plus gros regret, la chose que tu aurais aimé vraiment réaliser, et à côté de laquelle tu es passé?
Tu vois, ils ont fait un tournoi, ils en ont fait plusieurs après en Suisse, des tournois féminins. J'aurais adoré pouvoir gagner un tournoi en Suisse. C'était en 2016, quand j'ai perdu à Akstad contre Kiki Bertens. Après, je suis hyper contente que c'est Victoria Golubic qui ait gagné son premier tournoi à Akstad. Mais moi, mon regret, là, je pense que j'avais la possibilité de gagner, et puis, enfin, en tout cas, d'aller en finale. Mais je ne l'ai pas fait, quoi. Ça, c'est un des plus gros regrets que j'ai eu, quoi.
Et au contraire, ton plus bel accomplissement, ta plus grande fierté?
Largement, ma reprise du tennis et ce qu'il en suit. Parce que c'était pas sûr que j'allais réussir quand j'ai repris en 2013. Et j'ai réussi tellement de belles choses. En fait, j'ai presque envie de revenir sur le regret. C'est marrant, c'est qu'il y a quand même trois personnes qui m'ont dit ça les trois dernières semaines. Ils m'ont dit, mais pour ce que tu as réalisé dans le tennis, j'ai l'impression que tu n'es jamais assez valorisé. Puis moi, j'ai un peu dit, ouais, bah, c'est, tu choisis pas qui joue en même temps que toi, dans le même pays que toi. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que j'ai accompli déjà beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Et des fois, les personnes ont tendance à dire, bah, c'est pas tant que ça. Quand finalement, tu regardes sur une carrière, il y en a combien qui ont fait deux demi-finales en Grand Chelem, trois quarts de finale en Grand Chelem, qui ont gagné quatre tournois chez les femmes, qui ont gagné une médaille olympique, qui ont gagné beaucoup d'autres choses aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu biaisé.
Mais c'est un peu comme Gasquet chez nous, si tu veux, qui était très attendu quand il était jeune, qui finalement fait demi à Wimbledon et demi en Master 1000, ce qui est génial. Mais on attendait tellement de lui. Et par ailleurs, chez vous, un Wawrinka qui a gagné quand même deux ou trois grands chelems, trois, mais c'est monstrueux dans l'époque actuelle, donc tu peux rien lui reprocher, tu vois. Si tu t'étais envoyé peut-être un Roland, ne serait-ce qu'un Roland, mais tu serais devenu une icône vivante, quoi, tu vois.
Mais alors non, que bizarre. Martina Hingis dans la 5 de grand chelem.
Ouais, mais Martina, quelqu'un lui reproche quoi que ce soit?
Ben, je sais pas, mais je pense qu'elle pourrait aussi être beaucoup plus vénérée ou adulée qu'elle est aujourd'hui. Mais okay. Je pense que c'est par rapport éventuellement à sa fougue de la jeunesse qui a dit certaines choses qui n'auraient pas dû être dites. Mais c'est compliqué, en tout cas dans un petit pays, parce que si le monde entier regarde, finalement, je sais qu'en 2016, j'étais top 10, Belinda était top 10, Martina était numéro 1 mondiale en double, Stan était peut-être troisième mondial, Rodge était deuxième mondial. Il faudrait regarder ça. Mais ce qui était hallucinant, c'est qu'en 2016, À Wimbledon, il y avait trois nanas. Enfin, en tout cas, Belinda et moi, on était dans le top 10 simple. Martina, numéro 1 mondiale. Puis les deux garçons étaient top 5 pour un si petit pays.
Ouais, c'est incroyable.
C'est quand même hallucinant. Pour un
C'est
si petit
clair.
pays. Le regret, c'est qu'évidemment, d'un côté, comme je disais la dernière fois, c'est que tu as un Rog, tu as un Stan qui sont des Martiens. Et puis toi, tu es là,
Ouais.
tu fais un truc hyper bien au Grand Chelem. Et puis finalement, c'est un peu genre, ouais, bon, bah, moi, ouais.
T'as fait demi.
Deux.
C'est dingue. Quelle est ta définition de la richesse?
La richesse. La richesse ne sera jamais pécuniaire pour moi. Preuve en est, j'ai jamais acheté enfin, une voiture. Coûte je ne sais combien de centaines de milliers de francs. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir, comment dire, la paix avec toi-même. Si tu arrives à l'avoir, c'est dur, c'est pas facile. Mais la paix avec toi-même. Et puis aussi, finalement, les amis, l'entourage, la famille. D'avoir réussi finalement à partager tes moments de carrière avec ces personnes. Et qu'ils aient été là physiquement ou pas, mais seulement c'est de partager des émotions. C'est ça la richesse. Parce que quoi qu'il arrive dans ta tombe, que tu sois millionnaire, milliardaire, peu importe, ça sera sous terre. À un moment, on est tous prédestinés à la même fin. C'est à mourir et c'est comme ça. Mais seulement la richesse, c'est d'essayer éventuellement de toucher émotionnellement le plus de personnes possible, que ce soit à travers ton métier, à travers comment tu es en tant qu'être humain, ou à travers ton philanthropisme peut-être. Mais c'est pour moi, c'est ça la richesse.
Waouh, ça peut inspirer plus d'une personne, je pense. Si le tennis n'avait pas existé, Timéa, t'aurais fait quoi?
Bah, comme je disais, j'aurais probablement été serveuse ou j'aurais voulu avoir un bed and breakfast à la maison. J'aurais voulu avoir une auberge de jeunesse ou éventuellement accueillir des enfants. Enfin, je sais pas. Pour moi, la vie, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est partage qu'autre chose. Quand on est tout jeune, on a l'impression que la vie, ça passe tellement lentement. Puis là, déjà, à mes 30 ans, j'ai l'impression que c'est passé tellement vite. Maintenant, quand t'as mes 20 ans, j'avais l'impression, mais mon Dieu, ça passe tellement lentement. Puis à tes 30 ans, ça passe beaucoup plus vite. En fait, tu pourras jamais toucher à tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Mais essaye de sélectionner les choses qui te font le plus plaisir pour que finalement, chaque jour que tu te réveilles, t'aimes faire ce que tu fais. Finalement, il y a toujours ce dicton qui dit: choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras aucun jour de ta vie. Et ça, je pense qu'il est assez juste. C'est que même après une carrière sportive, choisis quelque chose. Tu peux te réveiller tous les matins, peu importe combien tu gagnes. Tant que tu as un toit, tant que tu peux subvenir à tes besoins et éventuellement plus donner aux autres, bah, ça suffit. Ça suffit amplement, vraiment.
Quand tu es sur le circuit, parce que bon, là, le confinement, c'est quand même une petite bulle, une petite parenthèse, mais quand tu es dans ta vie active, qu'est-ce qui te rend heureuse à la fin de la journée?
Moi, j'adore manger. Donc, du coup, il y a des plats qui se préparent, il y a des recettes nouvelles, etc. Donc, ça, c'est monstre cool. Qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui? Bah, avant de te parler, c'est pour ça que j'ai aussi été en retard. Bah, j'ai été marcher pendant 2 heures et quart. Aujourd'hui, j'ai fait 12 kilos. Après, j'ai été voir ma maman, tout simplement. Je lui ai demandé de jeter certains trucs du garage et puis bah, je l'ai fait. Je l'ai vu avec évidemment une distance, je pouvais pas la prendre dans les bras, mais ça fait quand même quelque chose quoi. Ça fait quand même bah voilà, je suis un petit peu avec elle quoi. Enfin, j'essaye de lui rendre service. Puis quand j'ai été marcher, bah c'est génial. On a parlé avec mon amie, on a parlé de plein de choses, perspectives éventuelles pour le futur. Enfin, tu rêves, quand c'est le confinement encore. Ben, rêver en quelque sorte, ça fait un moteur aussi pour le futur. D'avoir des mini projets, tu dis, ah, ce serait cool de faire ci, ce serait cool de faire ça. Ça donne beaucoup de choses, quoi, pour après.
Tu rêves de quoi du coup?
Ben, d'éventuellement refaire certaines choses où on habite, et puis de pouvoir éventuellement ouvrir un resto, faire en sorte qu'on puisse éventuellement voyager. Et moi, mon grand rêve, c'est après ma carrière, de me dire, ok, éventuellement je loue ma maison, ou je loue ou je vends ma maison, et puis je me dis, ok, je peux voyager pendant 5 ans, puis j'ai un backpack, et puis je voyage, et je vois, j'ai déjà voyagé, mais j'ai voyagé dans des hôtels pour mon job. Voyager, c'est, il y a d'autres définitions de voyager. Bon, voyager, pour moi, c'est découvrir le monde. Puis, peu importe que tu sois dans une petite cahute, n'importe où, qu'il fasse hyper chaud, que tu aies des lézards autour de toi, mais pour moi, c'est juste découvrir le monde. Pour moi, c'est mon plus grand rêve.
Quand tu es sur le circuit, tu arrives à voir une ou deux choses sympas dans les villes où t'es? Tu prends pas
Très,
le temps.
très rarement. J'en ai vu, mais c'était généralement quand je perdais, et puis après, je restais un jour. Mais
Ok.
c'est compliqué de vraiment voir ou de s'imprégner au fait de comment la ville elle vit. Et comme je disais, quand je veux voyager, c'est ça, c'est s'imprégner un peu de l'atmosphère de certains endroits et de savoir la culture, etc. Et puis avec la mondialisation aussi, et puis dans les pays dans lesquels on joue, bah, généralement, tu vas dans les grands hôtels, tu vas manger proche de ton hôtel. T'as pas vraiment ce côté un peu rural, j'ai envie de dire, de chaque pays, de chaque ville, parce que le lendemain, tu dois repartir, quoi. Ou tu dois jouer un match, donc tu vas vite manger près de l'hôtel, ou tu manges au club sur le Grand Chelem, et puis tu te concentres. Voilà. Mais tu as les choses, des fois, essentielles. L'essentiel, des fois, tu le rates assez souvent.
Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie?
Alors, c'était pas. Enfin, c'est lié au tennis. C'est pour l'instant le dernier match que j'ai joué, où j'ai perdu 6-0, 6-0 à Séoul, septembre passé. Puis j'étais là-bas avec une amie et elle devait faire les 3 tournois avec moi. Elle était une ancienne joueuse de tennis aussi. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi là, j'ai plus envie de jouer, j'en peux plus, j'ai trop mal au dos, j'ai pas envie de jouer. Voilà, là, je suis à Séoul avec toi. Ok, on va où demain? J'ai perdu, je vais annuler tous mes tournois. J'ai annulé tous les tournois parce que j'avais vraiment mal au dos. Il y a eu un constat d'ailleurs d'une physio qui a bien vu que j'avais enfin, très très mal au dos. Du coup, j'ai dit, écoute, moi je m'en fiche, là je pars. Donc tu veux venir avec moi ou pas? Puis elle fait, ah, non, mais je viens avec toi si c'est OK pour toi. Puis j'ai dit, ah, écoute, de toute façon, tu devais faire 3 semaines. Donc partons. Et c'est là qu'on a été aux Philippines. Bah, on est resté que aux Philippines. On voulait faire. On est resté sur une seule île, on est resté sur Palawan. On a fait du sud au nord Palawan. À la base, on devait aller sur d'autres îles, sur l'archipel des Philippines qui est plus de 7200 îles. Puis finalement, on n'a fait qu'une seule île. Mais après, moi, je suis retournée. Quand on est reparti, elle et moi, ensemble, moi, je suis retournée aussi toute seule parce que j'ai juste adoré là-bas. Et puis, je voulais juste encore voyager un petit peu dans les Philippines, enfin, à travers cet archipel. Et ça, c'était le plus dingue que j'ai dit du jour au lendemain. Moi, j'ai envoyé ma valise à la maison. J'ai envoyé mon sac de tennis à la maison. Et puis, j'ai juste gardé, au fait, un petit sac avec moi. Et puis, on est parti là-bas pendant 20 jours. Donc,
Ah, génial. Quel est le plat que tu cuisines le mieux?
alors, les pâtes. Les pâtes. Je dois dire les pâtes. Et mon ami dira pareil. Les pâtes,
Avec
je suis très forte en pâtes.
un accompagnement particulier?
Non, je fais. En fait, moi, je suis très, très rarement des recettes. C'est que ce qu'il y a dans le
Ok.
frigo. Puis après,
D'accord.
j'arrive avec les assaisonnements. On va faire sauter des oignons, de l'ail. Il y a toujours une espèce de vieille sauce tomate qui traîne dans les tiroirs. Et puis, un peu de crème. C'est que de l'improvisation, toujours.
Ok, un livre qui a marqué ta vie.
Oui, parce que j'ai un tatouage sur mon pied qui est le dos du livre d'ailleurs. C'est Eric
D'accord.
Emmanuel Schmitt et c'est le sumo qui ne pouvait pas grossir.
Quel est le message qui t'a particulièrement plu?
Ben, c'est Erfan, mon coach, aussi de l'époque de mes 15 ans à mes 23 ans, qui est de nouveau mon coach, qui me l'avait donné. Le message, c'était, enfin, moi, ce que j'ai tatoué sur mon pied, c'est il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages. Comme quoi, des fois, on a l'impression qu'on est un petit peu enfermé dans nos vies et puis qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Mais il faut toujours imaginer déjà qu'il y a des personnes qui sont dans des situations pires que nous. En quelque sorte, qu'on a nous-mêmes, on se met nous-mêmes dans une espèce de boîte, dans un espèce de presque confinement. On a les ressources pour en sortir. Mais il faut le vouloir, il faut réussir à le faire.
Est-ce que tu as un film référence ou une découverte récente qui t'a plu? Ou les deux?
C'est un truc avec la pupille de l'œil. C'est Eye Origin, je crois. Ça, j'aime All beaucoup right. comme film. Et sinon, mon ami, il aime beaucoup aussi Big Fish. Moi, j'aime beaucoup aussi Big Fish. Sinon, série découverte. Oui, une série que j'ai terminée hier soir qui était Tiger King. Complètement, je l'ai terminée, complètement débile. C'est intéressant, par contre, c'est pas, je dirais pas que c'est une découverte ou quoi que ce soit, mais moi je me dis, ces gens, ils vivent dans un autre monde que nous, quoi. C'est pour ça, le monde, il est tellement grand, il y a tellement des personnes qui sont dans un autre trip que nous, quoi. Moi, j'ai vu ça et j'étais presque outrée, quoi. Je me suis un peu dit, mais...
Ouais, c'est une sorte de télé-réalité autour d'un zoo, hein, c'est ça?
Ouais, plusieurs zoos, ouais.
Le concert le plus ouf auquel t'es assisté?
Ouais, j'ai vu très peu de concerts.
La plus grosse période de doute de toute ta vie?
Maintenant.
T'es en plein doute?
Ben, pour beaucoup de choses. Confinement et d'autres choses. Après, moi, enfin, ma carrière. C'est pas comme si j'avais 22 ans. Enfin, c'est maintenant.
Est-ce que tu te fixes des objectifs pour le circuit? Ou est-ce que t'en as envie? T'en es où?
Ben, j'attends un peu comment ce sera avec le confinement. Enfin, je suis pas sûre que tous les pays puissent rouvrir en même temps. Je suis pas sûre que notre circuit puisse réouvrir aussi en même temps. Donc, est-ce qu'il y aura un circuit à l'interne en Suisse ou pas? Donc, du coup, beaucoup de questions, quoi.
Ouais, beaucoup d'interrogations. Parce que la question qui suit, normalement, quand je demande la plus grosse période de doute, les gens disent « Ah, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 20 ans. » Et après, je dis, je demande « Qu'est-ce que ton toi d'aujourd'hui dirait à ton toi de l'époque ?» Pour te rassurer avec l'expérience que tu as acquise aujourd'hui. Qu'est-ce que ton toi dans 20 ans pourrait te conseiller à ton toi d'aujourd'hui, selon toi?
Bon, moi, dans 20 ans, me dira, tu as fait des erreurs, tu as fait des bonnes choses, mais dans la vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir que des bons, que des mauvais. Ça sera ce que tu fais au fait de ton acquis. De ce que t'as fait. Et c'est pareil que ma personne de maintenant, que je dirais à mon plus jeune moi, t'inquiète pas, t'aurais pas pu faire mieux avant. C'est seulement, t'as appris tes erreurs, t'as fait autre chose, tu t'es développé. Donc, bravo à toi. Et continue comme ça, parce que, comme je disais avant sur une autre réponse, la vie, c'est une éternelle évolution. Juste, essaye de vivre au quotidien, ce qui t'est donné, t'es déjà chanceuse de pouvoir le vivre sans trop de soucis pour l'instant. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder s'ils ont assez à manger pour eux, pour leur famille, ainsi de suite. Donc, je me considère toujours comme privilégiée. Je me dis vraiment, prends le positif. Et puis, s'il y a eu du négatif, ben, essaie de le tourner en tant que positif, quoi.
Derrière les nuages se trouve le ciel bleu. Il y a toujours le ciel bleu derrière les nuages.
Il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages.
Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir?
Bah, je dirais mon manager, mais il ne voudra jamais parler. Alex, il ne va jamais accepter. Donc, je sais. Non, mais sinon, il y a mon coach, Erfan. Éventuellement, Erfan Jahangiri. Jahangiri, son nom de famille, c'est le guerrier des étoiles. Ça veut dire ça en perse. Mais ça pourrait être intéressant de l'avoir aussi.
Stan?
Bon, Stan, il va accepter. Ouais. Moi, ça dépend combien vous avez de followers. Si pour lui, ça lui porte une plus-value, là, il va le faire.
Ouais. Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter pour terminer, Timéa, ça serait quoi?
Juste être heureuse. C'est tout.
Yes. Un grand, big, énorme merci d'avoir pris le temps et d'avoir été aussi incroyable. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré. Quel merci. Kiff. Moi, j'ai qu'une envie quand tu as un café, c'est de venir découvrir ton endroit. Hein. Ou ton auberge de jeunesse.
Moi aussi, en backpack.
En backpack, évidemment.
Bah, merci en tout cas pour ça.
Take good care of you.
Merci, toi aussi.
Allez, bonne soirée, Timéa. Ciao.
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.